Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Et à soirée exceptionnelle, débriefeur exceptionnel, puisque nous avons ce soir Julien Villery qui est avec nous. Salut Julien.
Salut François.
Directeur de l'innovation chez EDF. À ses côtés, c'est Cédric Ingrand. Salut Cédric.
Salut François.
Journaliste émérite dans la tech, qui aujourd'hui produit plein de choses, des vidéos, des podcasts, etc. Et qui est un fin connaisseur de tout ce monde-là, tout comme évidemment Didier Sens qui est avec nous.
Bonsoir.
Aussi, ce soir. Salut Didier. Didier qui connaît bien Apple depuis...
quelques années.
Et à tes côtés, c'est Yves Maître qui est là avec nous.
Bonsoir.
Bonsoir Yves, ravi aussi de te retrouver.
Merci.
Voilà, nos quatre pointures de la tech ce soir pour commenter ce rendez-vous important hein, qui a débuté il y a pile une heure, présenté bien évidemment par Tim Cook. Et puis après, vous avez toute une série de présentations avec, des chefs produits, en tout cas les spécialistes de chaque, on va dire, entité. Alors pour l'instant... Je dois vous le dire, puisqu'on vous commande tout ça en direct. Hein. On a pour certains des AirPods, d'autres des vidéos de secours pour voir un petit peu ce qui se passe. Julien et Cédric, et puis vous quatre, hein, n'hésitons pas à commenter cette première heure de cette keynote. Rien d'exceptionnel, on va dire.
Incrémental.
Voilà, ces innovations incrémentales. Concernant iOS, WatchOS. Alors iOS, on n'en a pas parlé. Hein.
Si, on en a parlé.
C'est un chapitre.
Mais ils ont commencé
court,
par Vision Pro.
Oui. Et par le Vision Pro, voilà, essayons de faire ça chronologiquement. Donc le Vision Pro, la première bonne nouvelle, c'est que ça y est, on a une date, le Vision Pro sort en France.
Tout à fait, 12 juillet, commercialisation en France et dans un certain nombre de pays d'Europe. C'était très attendu, voilà, maintenant on a la date.
Voilà, le 12 juillet, vous pourrez donc dépenser...
on ne sait pas encore combien d'ailleurs.
Le prix va tomber, c'est une question de minutes. Mais on a appris qu'il y avait 2000 apps.
Il ne va pas tomber.
Non, il ne va pas chuter.
Il ne va pas chuter.
Le prix,
on va connaître le prix
dans votre inbox.
Voilà, c'est ça.
Mais,
d'accord.
Non. On a appris qu'il y avait 2000 apps sur Vision OS. Ouais. Je suis retenu de faire la blague en disant que c'est presque autant que d'utilisateurs. Mais je pense que si vous êtes développeur aujourd'hui et que vous avez envie de développer une appli sur Vision OS, je pense qu'Apple va vous donner un support extraordinaire en ce moment. Parce qu'évidemment, et c'est une plateforme qu'ils ont envie de pousser. Ils ont montré des nouvelles fonctions qui sont intéressantes, qui ne résolvent pas les problèmes, j'ai envie de dire, originels de la plateforme. C'est-à-dire, par exemple, vous montrez que vous pouvez utiliser un immense écran virtuel pour travailler. Oui, le problème, c'est qu'on sait que vous n'avez pas gardé ce casque sur les yeux pendant 8 heures. Bon, bref. Donc,
c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un mur d'image. Avant, il était plus étroit. Là, maintenant, il est beaucoup plus large.
On peut l'élargir. Il est de meilleure résolution. On peut aussi l'espacer dans l'espace, parce qu'on est aussi en profondeur avec Vision Pro. Mais effectivement, ça reste dans un casque.
Ça reste dans ce casque-là. Donc, la bonne nouvelle, c'est que le 12 juillet, il est disponible. On attend le prix d'une minute à l'autre. J'espère qu'il sera communiqué ce soir.
Sur le Vision Pro...
Yves, rappelons que tu as travaillé chez HTC. Tu as été le patron de HTC pendant quelques temps, qui est, on va dire, l'un des historiques de la VR. Donc, tu connais bien ce milieu-là.
Avant Apple, c'était Meta et HTC.
C'est ça.
Et le lead, donc.
Exactement.
Enfin, Meta. Au départ, j'étais en avance, puis après, Meta ont mis des moyens tout à fait colossaux. Donc oui, c'est un sujet que je connais bien. Alors, il y a quand même deux, trois petites choses qui m'étonnent. D'abord, c'est qu'il soit en premier, parce que c'est quand même le fils ou l'héritage de Tim Cook. Et ça a été assez court. Donc pour un héritage, j'ai trouvé que... Il n'y avait pas vraiment d'emphase sur ce produit-là. Ça, c'est
on sentait que c'était les fonctionnalités qu'ils n'avaient pas réussi à finaliser pour le lancement en début d'année qu'ils ont mis dans Vision OS 2, en fait. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai ressenti les choses.
Oui, enfin, j'ai pas été impressionné par les modifications. Par contre, j'ai noté quand même qu'il y avait un changement de langage, parce qu'avant, c'était du travail spatial, et là, on n'a pas beaucoup parlé de ça, ok ? Par contre, on a beaucoup parlé de 3D. Okay. Ce qui n'était pas le cas avant. Et de nouveaux jeux dans le casque, etc. etc. Et ça, c'est un peu comme les anglo-saxons confusing, où ça rend les choses un peu confuses, parce qu'il avait expliqué au lancement que c'était un produit pour les entreprises, et là, tout d'un coup, lors de la deuxième implémentation,
La mise à jour.
La mise à jour, on ne parle plus beaucoup de l'entreprise, mais on parle de la 3D, on parle de jeux. Et donc, ça lève un certain nombre d'interrogations, et je trouve assez bizarre ce changement de positionnement ou ce flou autour du positionnement, alors que le premier positionnement est extrêmement clair.
C'est intéressant parce que ce pourrait être le positionnement finalement qu'on attendrait pour une version ultérieure qui serait beaucoup moins chère et qui tout à coup deviendrait un véritable objet grand public. Peut-être qu'ils l'ont mis aussi en avant parce que c'est la plateforme pour laquelle ils ont le plus besoin de recruter des développeurs et de faire venir des applications. Donc il y a peut-être une vraie raison business à cela, mais c'est vrai qu'on est passé d'un outil très professionnel, de toute façon au vu de son prix, à des utilisations qui là, de fait, t'as raison, d'être très grand public, du jeu, du divertissement,
ouais,
du,
la 3D, beaucoup insisté sur dans la 3D, etc.
Après, c'est ce que tous les testeurs en fait ont mis en avant, oui, en disant ce truc coûte très cher, il a plein de qualités, mais ça vaut pas le prix, sauf pour l'entertainment. Et quand même, tous les tests ont dit ce qui est génial, ce qui est extraordinaire.
C'est regarder des films.
C'est regarder des films, c'est les expériences interactives, etc. Donc peut-être qu'ils sont en train aussi juste d'affiner le positionnement marketing.
Okay, mais ça voudrait dire que tout ce qui a été fait avant par Apple comme positionnement marketing, c'est une... Enfin, ils se sont plantés.
Mais on l'a connu sur le Watch. La Watch, quand ils l'ont lancé, c'était une montre haut de gamme de luxe, un peu lifestyle. Ouais. Et c'est devenu un produit de santé connecté au poignet.
C'est vrai. Donc, là, ça a été vite quand même le changement. Hein.
C'est vrai que là, ça a été
en
très
quelques
rapide.
Mois quand même. Hein.
C'est clair. Peut-être quand même sur ce sujet, moi, un point que j'ai trouvé très intéressant sur le Vision Pro, c'est pas du tout la nouvelle version de l'OS avec trois fonctionnalités en plus. C'est le fait qu'ils ont insisté sur deux choses, et en particulier sur la production de vidéos, parce que les fameuses vidéos immersives, qui est le gros reproche qui est fait à Apple, vous lancez un casque à peut-être en France 4 500 €. Je ne sais pas. Et dedans, il y a très peu de contenu à regarder, adapté en 3D. Ils ont annoncé deux choses vraiment super importantes. Un objectif spécial pour les appareils photo Canon R7, qui en gros est un standard de vidéo aujourd'hui pour les gens qui font des vidéos semi-pro.
Voilà, pour les créateurs,
qui va permettre, voilà, de produire énormément de contenu à un coût raisonnable. Et de toute la chaîne de production de Blackmagic, qui est là aussi très très utilisée par beaucoup de gens avec DaVinci Resolve et toutes les caméras. Et donc, ils sont en train de dire on vous donne les outils pour enfin produire de la vidéo pour ces outils-là, et donc ça rejoint le point sur l'entertainment, c'est que je pense qu'ils vont vraiment pousser à fond ce sujet-là.
3 999 €. Ah, dixit Nicolas Lelouch qui est sur place.
On salue Nicolas.
TTC ou hors taxe?
Non, ça doit être TTC.
En France, c'est TTC.
Voilà, 3 990 € le Vision Pro qui arrive donc dans les Apple Store, on l'a dit, le 12 juillet prochain. Juste petit clin d'œil, les amis, c'est mon anniversaire le 12 juillet. Je vous dis ça comme ça.
C'est la deuxième fois qu'il nous le dit ce soir.
Voilà.
Je pense que le message est assez clair.
Tu sais, il faut, c'est la rhétorique. Il faut répéter les trucs pour que ça rentre. Bon, voilà pour le Vision Pro. Didier est très silencieux, mais je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il est en train de suivre cette keynote qui n'est pas terminée, loin de là. Et là, on commence à rentrer dans le dur, Didier. Hein.
Oui, c'est Craig Federighi qui est en train de présenter ce qu'il appelle Apple Intelligence. Et après une petite introduction de Tim Cook qui expliquait qu'en gros, pour qu'une intelligence artificielle fonctionne, elle doit être efficace, personnelle, enfin, il y a plein de d'adjectifs qui correspondent un peu à la philosophie d'Apple. Et là, justement, on est en train de rentrer dans le plus dans le détail un peu pratique. Quelles vont être donc les capacités de l'Apple Intelligence, voilà, comprendre, générer des...
Voilà, on est au tout début, là, c'est l'introduction là de cette partie-là. Hein.
Donc, ce qui compte, c'est que donc on en retient que un, ça s'appelle Apple Intelligence et qu'on n'utilise pas le mot intelligence artificielle. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que dans la première présentation de cette keynote, on a eu droit à des expressions comme machine learning, apprentissage, intelligence tout court.
Ouais. On tournait autour du pot quand même.
Voilà, on tournait un peu autour du pot et voilà. Maintenant, on commence à nous expliquer que ça va apporter vraiment de nouvelles fonctionnalités et surtout un côté beaucoup plus pratique à l'utilisation de nos outils, notamment à commencer par l'iPhone évidemment.
Et alors ce que Didier est très intéressant parce que j'ai le slide sous les yeux, dans ce qu'ils ont annoncé comme type de modèle, il y a donc langage, image, classique, on connaît, action. Les action modèles, c'est les fameux modèles qui ont été vantés par le RabbitAir 1 dont on se souvient, qui sont cette idée que on va pouvoir, enfin l'IA, donc l'Apple Intelligence en l'occurrence, va pouvoir d'elle-même comprendre comment fonctionnent les apps et agir d'elle-même sur les apps. Ça c'est intéressant parce que c'est le premier device, si j'enlève le RabbitAir 1 qui est quand même un truc très 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 prototype, qui potentiellement pourrait venir se servir des apps à votre place. Donc j'ai pas vu encore les démos évidemment, mais ça laisse penser quand même qu'ils vont aller dans ce sens-là, ce qui est une vraie différence par rapport à Google et Samsung à date.
Alors, on reviendra sur la partie intelligence artificielle. Moi, ce que je vous propose, c'est que, alors, Didier suit ça tranquillement, mais qu'on revienne sur ce qui a été annoncé entre 19h et 20h. On a évoqué le Vision Pro. Bon, il n'y a rien d'autre. Mise à jour qui sera présentée. Vous savez que le train des mises à jour chez Apple, c'est toujours au même moment. Oui. C'est quand les nouveaux iPhones sortent. Hein. Donc, ce sera... automne prochain,
septembre.
Enfin, septembre, voilà, où là vous aurez la mise à jour du Vision Pro, la mise à jour des iPhones, des iPads, etc. Et macOS aussi, on en parlera dans quelques instants. Après le Vision Pro, on a attaqué
iOS,
donc le système d'exploitation iOS 18. Là, on n'évoque pas tout ce qui est intelligence artificielle, mais on va dire les petits trucs qui chaque année augmentent en quelque sorte le plaisir de manipuler ces objets-là. Qu'est-ce que vous avez remarqué?
C'est
qu'est-ce
que vous avez retenu? Que des petits trucs.
Il y a quand même une chose, mais qu'on n'a pas vu juste dans le récap qu'ils ont fait à la fin du chapitre, c'est enfin l'arrivée d'RCS.
Ouais, dans ça c'est du lourd quand même.
Bah pour nous c'est du lourd.
On explique ce que c'est peut-être.
Parce qu'on est dans une région où il n'y a pas 70% d'iPhone. Donc forcément, c'est beaucoup plus lourd pour l'Europe et le reste du monde que pour les États-Unis. RCS, on rappelle, c'est la nouvelle norme du SMS qui permet de faire du SMS un peu amélioré et de rattraper en fonction ce qu'on arrive à faire dans du messaging directement entre deux iPhones aujourd'hui,
voilà,
qui refait un peu le gap entre les deux. C'est aussi ce que Google et les autres ont adopté. Donc ça va être un vrai standard. Ça ne dépend pas juste d'une application. Donc évidemment, Craig Federighi, il le rappelle à la fin parce que pour son public immédiat, c'est pas le truc le plus important. C'est important pour nous. Ouais. Ça va quand même changer des choses. Et c'est dans la mise à jour d'iOS. On n'a pas besoin de racheter un nouvel iPhone pour que ça fonctionne.
Et pour qu'on comprenne bien, pour qu'on image tout ça, vous avez remarqué qu'aujourd'hui, je parle pas des messageries style WhatsApp, etc., ou Telegram. Quand vous envoyez un SMS à quelqu'un qui n'a pas d'iPhone, il reçoit donc un SMS. Voilà, ouais, un truc qui existe depuis la nuit des temps. Là, avec le RCS, quand vous allez envoyer un message à un utilisateur Android sans rien faire, eh bien vous verrez qu'il écrit le message, vous verrez qu'il l'a lu, qu'il a été distribué, vous pourrez envoyer des photos qui seront plus odieusement compressés comme le MMS ou parfois c'était une bouillie de pixels. Donc en fait on se retrouve avec la plupart des fonctionnalités qu'il y a sur eMessage pour tout le monde. C'est ça la révolution.
Bien sûr. Et puis qui seront standards au travers des plateformes. C'est-à-dire que quelqu'un qui est sur l'appli standard de message d'Android pourra vous répondre avec les mêmes fonctions.
Tu as travaillé chez Orange pendant
J'ai travaillé particulièrement sur ce sujet-là. T'as travaillé sur RCS. C'est parti de mon scope de responsabilité, comme on dit. Et j'ai eu énormément de mal à même aborder le sujet avec Apple, avec Tim Cook. Je me souviens de Stéphane Richard deux fois de suite dans deux réunions avec Tim Cook qui se heurtait à un mur de silence. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ils le font maintenant? Alors il y a peut-être deux réponses possibles. Il y a le DMA. Alors, parce qu'il faut savoir que le DMA oblige une interopérabilité entre les différentes messageries, sauf que iMessage ne tombe pas sous le coup du DMA, mais que Apple a préféré prendre un peu d'avance pour éviter d'être sanctionné. Mais moi, ce que je pense surtout, c'est que iMessage, s'il s'enrichit, et il va s'enrichir, et probablement avec de l'intelligence artificielle, multimodale, etc., à ce moment-là, si seuls les possesseurs d'iPhone peuvent bénéficier de cet enrichissement, ben ce serait dramatique parce qu'ils représentent qu'un tiers des utilisateurs de smartphones en Europe et dans beaucoup de pays encore moins que ça. Okay ? Et donc il était obligé pour pouvoir mettre en valeur, pour pas s'isoler, pour pas devenir un petit truc super bien mais que pour une petite élite, il a été obligé de se dire comment je fais pour que l'enrichissement que je vais générer par iMessage puisse toucher le maximum de personnes. Alors, il avait WhatsApp, mais Facebook, on sait très bien que c'est son ennemi juré, et il avait RCS. En gros, il n'avait pas beaucoup le choix entre Facebook et quelque chose qui est standardisé, qui est de l'AGM.
Qui est développé par Google, bien sûr.
Oui, mais qui est standardisé au niveau de la GSM.
Oui, mais qui a été poussé par Google, enfin.
Non, a été poussé par les opérateurs, qui n'y arrivant pas, sont allés voir Google en disant « Pouvez-vous nous aider ?»
D'accord.
Okay, c'est comme ça que ça s'est fait. Et donc, moi, ce que je pense, c'est que, de manière sous-jacente, qui n'est pas encore dit, peut-être que ça se dira un peu plus tard, parce qu'ils sont encore en train de parler, c'est, à mon avis, une porte ouverte à un enrichissement et à de l'AI dans iMessage de manière significative et AI multimodal. Et c'est ça qui prépare.
Alors Didier, simplement ne nous dis pas ce qui est annoncé parce qu'on va y revenir tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a du lourd annoncé depuis tout à l'heure?
Non, il n'y a pas du lourd, mais il y a l'esprit Apple, c'est-à-dire regardez, nous ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle, c'est vraiment pour aider l'utilisateur, c'est un côté très pratique et on en parlera un peu plus longuement tout à l'heure.
Voilà, on attend que les annonces tombent pour faire un beau bouquet d'annonces intelligence artificielle. Concernant les iMessage, aussi un truc qui a l'air anodin comme ça, mais qui est assez révolutionnaire dans le monde des télécoms, C'est dans la continuité, vous savez, de ces messages d'urgence que Apple avait proposé avec l'iPhone 14, rappelez-vous. Vous n'avez pas de réseau, il vous arrive un pépin, vous tombez, un malaise, etc. Et ben, malgré le fait que vous n'ayez pas de réseau, vous pouvez envoyer un message par satellite. C'était réservé qu'aux messages d'urgence, dans un contexte bien particulier. Là, Apple annonce que pour iOS 18, eh bien, n'importe qui pourra envoyer des SMS quand il n'a pas de réseau.
Et c'est exactement ce que tu disais à l'instant, c'est-à-dire qu'ils sont en train de se dire probablement comment je continue de nourrir iMessage, sachant qu'il est obligé de s'ouvrir à tous avec RCS, donc comment je rajoute des fonctionnalités dans l'iPhone et dans le messaging de l'iPhone qui me garde quand même un avantage compétitif. Et ça, c'est, enfin, honnêtement, ils y sont passés en 20 secondes, mais c'est assez impressionnant on va avoir cette communication vraiment tout venante, effectivement pas parce que je me casse une jambe, mais juste parce que je vais envoyer un SMS pour dire tiens, est-ce que tu peux penser à acheter le pain pour ce soir, via satellite, quand je n'ai pas de réseau. Et on ne sait pas si ça sera payant ou pas. Il n'y a pas eu d'informations là-dessus dans la keynote. On le saura sûrement dans les heures qui viennent. Mais je trouve que c'est une petite, je pas utiliser le mot révolution à tort et à travers, mais c'est quand même un pas très significatif.
Quand on n'a pas de réseau, c'est une petite révolution.
Ah oui.
C'est toujours pareil. T'es en plein Sahara, tu vas envoyer un SMS, c'est cool quand même.
Encore, même en plein
de la Corse, par exemple.
Ouais, en pleine campagne, en pleine cambrousse, t'as pas de réseau.
Encore faut-il que le régulateur et les opérateurs soit d'accord pour que ça se fasse. C'est-à-dire que aujourd'hui, si tu vas dans un certain nombre de pays, parce que ça existe déjà, c'est pas le seul à faire ça. Si c'est pas ouvert, c'est pas ouvert. Et aujourd'hui, à ma connaissance, en France, c'est pas public.
Message d'urgence, oui. Message d'urgence, c'est ouvert.
Mais en message d'urgence.
Mais pas
en communication data, C2C,
c'est pas. Tu as raison. Est-ce que l'ARCOM a son nez à mettre là-dedans ou pas ?
C'est une fréquence. Quand même, une fréquence satellitaire, c'est une fréquence.
Globalstar a déjà une licence, donc je pense pas.
Oui, mais est-ce que c'est une licence internationale pour tout
Globalstar, oui.
Je pense que oui.
Bien sûr, Globalstar.
Donc, a priori, on va se retrouver.
Oui, à condition que toi, tu aies pris un abonnement Globalstar.
Alors, c'est ça
la question. Ou que l'Apple te l'ait pris pour toi.
Non, mais pas.
Et qu'il soit ouvert dans ton pays. C'est-à-dire que si tu vas dans un pays où c'est pas ouvert.
Bien sûr.
On va dire la Corée du Nord, ça m'étonnerait que Globalstar soit ouvert. Remarque, on va pas très souvent avec son iPhone en Corée du Nord.
Au moins, t'es sûr que t'as pas de réseau.
Mais t'as besoin de la communication d'urgence, par contre, dans ces pays-là.
Mais alors, Yves, il faut savoir que cette fonction d'urgence qui a été lancée il y a 2 ans, Julien, marche sans abonnement. C'est-à-dire que Apple offre ce service.
Alors ils ont investi en fait dans le réseau de satellites, ils ont mis de l'argent pour pouvoir effectivement proposer ce service et le contrôler, parce qu'ils aiment bien contrôler les choses quand même chez Apple, avec un caveat qui est de dire, je vous l'offre pendant 2 ans à l'achat du nouvel iPhone. Et c'était exactement quand ils ont sorti les iPhones il y a 2 ans. Donc la grande question qui va se poser, c'est quid de quand ces vieux téléphones n'auront plus 2 ans. Alors, est-ce que tous les ans, ils vont dire, je vous rajoute une année gratos? Et s'il faudra racheter, c'est quand même un modèle de matériel, Apple, c'est un modèle hardware. S'il va falloir racheter le nouveau téléphone tous les 2 ans pour être sûr d'avoir la fonction, pour l'instant, ils n'ont pas communiqué sur le sujet.
Bon. On verra bien. Ça va être intéressant de suivre ça aussi, si c'est un accord commercial ou est-ce que c'est Apple qui va facturer quelques euros supplémentaires pour qu'on puisse bénéficier de ce service. Ou peut-être qu'on aura 10 SMS par mois. Enfin, peut-être des quotas.
Un quota gratuit pour commencer.
Pourquoi pas. En tout cas, c'est une vraie valeur ajoutée. C'est intéressant. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que tous les autres constructeurs vont y venir aussi, parce que forcément, ça va créer.
C'est compliqué, parce que là, on n'est pas sur un réseau ouvert. C'est pas le Wi-Fi du voisin.
Ouais, c'est clair. C'est certain. Côté iMessage,
vous allez beaucoup de cosmétiques, des messages qui vibrent, la possibilité de gérer son home screen comme le fait Android depuis 10 ans.
Un peu plus d'emoticônes un peu partout.
Moi, j'étais frappé par une chose, il y a maintenant une espèce de dark mode pour changer tes icônes en mode plus dark, ok, soit. Et même pour les customiser complètement, en changer complètement la couleur. Truc inconnu chez Apple. Chez Apple, on fait une icône, c'est ton icône, ce sera ton icône jusqu'à la mort de ton iPhone, et c'est comme ça.
Mon fils.
C'est-à-dire que tout à coup, te dire, tiens, toutes tes icônes vont passer en rouge, en vert, en orange. Ouais. J'imaginais la main de Steve Jobs sortant de la crypte en disant, je vous interdis. Non. Donc, il lâche un peu le contrôle sur le design, c'est une vraie première.
Okay. C'est une personnalisation, en fait. Sur iOS 18, autant pour moi, sur le Vision Pro OS 2, c'est 3D, changement de positionnement. Mm-hmm. Sur iOS 18, c'est customisation. C'est-à-dire, je fais quelque chose pour toi. Là aussi, J'imagine que la fin de la conférence, c'est le l'appetizer, c'est l'apéritif de la suite. Et on sent bien qu'il y a une volonté de dire à l'utilisateur, tu es au centre et je vais faire des choses pour toi. Tu vas pouvoir faire des choses qui t'appartiennent. Tout le début de l'iOS 18, c'est vraiment ça.
Et c'est intéressant parce qu'on voit qu'Apple arrive à un moment où c'est difficile. On n'est plus sur les mêmes rythmes de vente. On a tous les gens qui ont des iPhones autour de cette table, ont des iPhones qui durent de plus en plus longtemps, qu'on a de moins en moins de motivation à changer. Bah, du coup, on a l'impression qu'ils vont picorer aussi sur le modèle des voisins. Je voyais ce qu'ils montraient sur le Tap to Cash pour pouvoir s'échanger maintenant de l'argent directement d'iPhone à iPhone. C'est un truc qui va faire beaucoup de mal chez nous à des Liga, aux États-Unis à des Venmo et à d'autres.
On explique, hein. C'est-à-dire que on est au resto. On veut partager
l'addition. La note, je te dois 28 euros.
Voilà, paf, avec Apple Pay, et automatiquement, voilà. Je reçois l'argent.
Là encore, ils sont très très forts sur les interfaces utilisateurs. Parce que
c'est violent quand même.
Cette interface.
Ouais, enfin, WeChat fait ça depuis des années. Non, quand tu vas en Asie.
Oui, WeChat le fait, bien sûr. Lydia le fait très bien. Sauf que là, c'est intégré au téléphone. C'est-à-dire que tu n'as même plus à lancer d'application. Enfin, tu lances ton wallet, tu rentres la somme, tu fais comme ça avec.
Et avec
un autre
le même
téléphone.
Geste qu'on fait tous pour payer.
Voilà,
c'est ça. Tout le monde maintenant est habitué à faire ce geste pour payer.
Ce qu'on veut dire par là, c'est que ça va entraîner des bouleversements chez des éditeurs d'applications qui proposaient ce service. Ouais. C'est ça.
Ça, c'est sûr.
Mais voilà.
Il va y avoir des développeurs qui vont être un peu
déçus ce soir. Pas
déçus sur le ce qui est annoncé, mais déçus pour leur propre business.
On parle beaucoup de dissolution en ce moment, mais je pense qu'il y a quelques applications qui vont être dissoutes assez rapidement. Ouais. Quoi d'autre à retenir?
Et des cours d'action qui vont être dissous.
Alors Didier, vous l'avez vu, il est là.
Gros du morceau.
Il ne regarde pas le dernier épisode de sa série préférée. Aussi,
pourtant, il y a plein
plus.
De nouveautés sur Apple TV+. Ils ont même commencé avec
ils ont commencé avec
oui,
ça.
C'était très surprenant.
Ça va être top. Ouais. Tim Cook avait l'air très excité.
On parle de Siri.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on fait là? Parce que il nous reste 2 minutes 30. Tu peux déjà nous dire 2-3 trucs sur Siri ou pas?
Je peux vous dire que maintenant, il comprend à peu près ce qu'on lui dit, même quand on hésite.
Ah, c'est un gros progrès.
Et quand on essaie de reformuler, vous savez, c'est toujours Siri, qu'est-ce que je voulais dire déjà, etc. Là, avec le.
Il sera plus obligé de dire le mot.
Non, mais il peut suivre.
Il comprend les scories, c'est
voilà,
ça. C'est,
exactement, et il peut reconstituer la requête après. Donc ça, c'est bien. Il peut interagir avec différentes applications. Siri, retrouve-moi toutes les photos de ma copine quand elle avait sa robe rouge au mariage.
D'où le action model, du coup, ouais.
Bling. Qu'est-ce qu'il y a encore? Et puis, d'autres choses qui disent que Siri va évoluer de plus en plus. Notamment l'année prochaine, ils vont rajouter encore de nouvelles capacités. Et ce qui est intéressant, c'est que outre Siri, il y a aussi toutes les fonctions qui vont améliorer l'agenda, la prise de notes, mail, grâce à l'intelligence artificielle générative.
Pour l'instant, pas un mot sur OpenAI, on est d'accord.
Il n'y a pas, il y a aucun fournisseur qui a été nommé.
D'accord. On me dit dans l'oreillette, et là, croyez-moi, cette expression vaut ce qu'elle vaut, que ces fonctions IA ne fonctionneront qu'avec les générations d'iPhone 15.
Mm-hmm. Alors, il faut au minimum
c'est pas ce que j'ai vu.
Moi, j'ai vu que...
Parce que Léa m'a dit ça dans l'oreillette, qu'il fallait l'iPhone 15. Donc, parce qu'il fallait une puce assez puissante pour faire de l'IA, du traitement d'IA sur le téléphone.
À partir de la puce M1, donc effectivement, ça doit correspondre à peu près...
17 Pro.
C'est le 15 Pro
c'est le 15 Pro, je pense.
C'est la puce A17 Pro qui est compatible avec...
A17 Pro,
oui, donc c'est le 15 Pro.
Oui, donc effectivement, il faut des iPhones récents, oui.
Mais ça, c'est pour le traitement en local. Il y a plein de choses que Siri pourra continuer de faire avec un traitement...
Alors,
ça dépend des fonctions.
Oui, enfin, je pense qu'on va revenir là-dessus, mais il y a eu toute une partie aussi sur la confidentialité et le traitement des données, où en fait, apparemment, l'intelligence artificielle va savoir quand elle pourra agir localement et quand elle aura besoin de faire appel à l'extérieur. Donc tout ça est un peu schématique pour l'instant. On aimerait avoir un peu plus de détails. On verra.
Mais ça va arriver.
Et en même temps, c'est assez logique parce que tout ça est quand même censé nous motiver à acheter le prochain téléphone.
Exactement. Je pense que peut-être on peut développer un peu parce que
d'avoir
Siri cross app, c'est quand même vraiment quelque chose de très novateur.
Yves, ce que je te propose, parce qu'il est 20h26, on va faire une petite pause. On va retrouver l'info écho. On va essayer de rassembler tout ce qui a été dit parce que je vous rappelle que cette keynote, voilà, elle se déroule actuellement. Elle va encore durer, je pense, une bonne trentaine de minutes. Donc, on découvre les informations en même temps que vous, finalement. Donc là, on va faire un petit point. On digère tout et on revient dans, allez, même pas une dizaine de minutes pour faire le point juste après l'info éco et une petite pause qui arrive tout de suite. Merci d'être là. On débriefe la WWDC d'Apple ce soir jusqu'à 21h30 dans Tech&Co. À tout de suite.
Tech&Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà un débrief de l'actu tech jusqu'à 21h30 et on va dire exceptionnel puisque nous vivons ensemble, tous ensemble, nous sur le plateau, mais vous aussi à la radio ou à la télé, et bien cette keynote WWDC édition 2024, vous le savez, le grand rendez-vous des développeurs organisé par Apple chaque année, une conférence qui a une saveur toute particulière cette année puisque Apple n'a pas le choix, Apple doit passer à l'intelligence artificielle pour rattraper son retard sur la concurrence, pour être au niveau d'OpenAI et des Microsoft, pour être au niveau aussi de Samsung Galaxy qui a dégainé ses smartphones bourrés d'intelligence artificielle il y a plusieurs mois déjà. Donc Apple est obligé de se mettre à niveau et c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement puisque cette keynote se déroule en ce moment, hein. Vous avez le lien YouTube si vous voulez la suivre bien sûr, mais ce qu'on vous propose jusqu'à 21h30 c'est évidemment de vous résumer toutes ces annonces avec nos experts. Julien Villeray, directeur d'innovation d'EDF est là, qui est un fin connaisseur du monde Apple depuis pas mal de temps. Cédric Ingrand, bien sûr, ancien journaliste et producteur de podcast. Nous avons aussi Yves Maître, ancien de chez Orange, ancien de chez HTC, qui connaît très bien, en fait, toute cette industrie. Et Didier Sens, qui est là aussi, ancien journaliste et qui suit avec beaucoup d'intérêt toute l'actualité tech maintenant depuis quelques années. Voilà, t'as vu, j'ai pas dit de nombreuses, j'ai dit quelques années.
Je l'ai senti derrière.
Bon, Didier, tu regardes avec beaucoup d'attention tout ça. Alors, on s'est un petit peu mis à jour pendant les informations de Marjorie Adelson. Là, on rentre dans le dur, hein, les amis. Voilà, Apple déroule en fait sa stratégie IA qui arrivera donc, on le rappelle, avec la prochaine mise à jour sur l'iPhone. Ce sera en septembre prochain. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que les iPhones hyper récents qui auront accès à ces fonctionnalités, Julien.
Les 15 Pro, donc ceux qui disposent d'une puce A17 Pro, donc les plus récents, donc ceux qui sont sortis en fait l'année dernière. Donc,
et les ça plus veut chers, dire que, accessoirement.
Évidemment. Et donc, il y aura la génération de l'année dernière plus la génération de cette année qui pourront faire tourner a priori ces modèles en local. Donc, ça peut être effectivement une déception. En même temps, je crois que je l'ai déjà dit deux fois depuis le début de l'émission, Apple est une entreprise qui gagne sa vie avec le hardware. Et donc, tout ce qu'elle peut faire pour vendre, enfin, faire du renouvellement plutôt de hardware dans un marché saturé, évidemment, ça fait du sens pour eux. D'autant qu'il ne faut quand même pas l'oublier, hein, développer des modèles d'IA, même en local, ça coûte beaucoup, beaucoup
d'argent. Ça peut coûter cher, mais attention, hein, ça c'est l'iPhone. Il y a aussi toutes les machines qui fonctionnent à base de M1, M2, M3, M4, c'est-à-dire tous les Mac des années passées, et, enfin des années iPads récentes, on va dire. Et puis certains iPads, iPad Pro, comme on l'a vu, les derniers, et ceux aussi de l'année dernière. Donc ça fait quand même pas mal de machines sur lesquelles ça va fonctionner. C'est assez impressionnant. Là, j'avoue, autant, on va se le dire très clairement, la première heure de la keynote, une espèce de petite mise à jour sur, regardez maintenant, vos AirPods ont un mode pour isoler la voix. Toutes ces fonctions dont tu pensais qu'elles existaient déjà.
C'est ça.
Voilà.
Exactement.
On va le dire, on était un tout petit peu déçus. Là, quand même, ce qui sort, il y en a pour tous les goûts, ça envoie du lourd. Surtout sur l'intégration dans toutes les fonctions existantes, à la fois d'iOS et j'imagine de macOS, on va le voir. Et puis, cette capacité aussi à faire de l'IA générative sur des images. Enfin, il y a beaucoup. On les excuse un peu déjà d'avoir pris tant de temps à y arriver et de nous avoir fait patienter parce que c'est des choses qu'on aurait voulu voir arriver il y a un an au moins, quoi.
Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, ça vient de tomber à l'instant. GPT-4o, donc d'OpenAI, fera fonctionner Siri. Donc, autant vous dire qu'on va passer.
Ça, c'est énorme. Hein.
On va passer d'un QI d'huître à quelque chose. Qui est vraiment impressionnant.
Pas que sur le QI, sur la fluidité aussi du dialogue.
Voilà, intelligence, fluidité, enfin je veux dire, on va pouvoir avoir de vrais dialogues avec Siri, ça c'est quand même une grosse news. Mais ce qui est intéressant, parce que tu évoquais que toutes ces innovations arriveront avec donc le nouvel iPhone et l'iPhone 15 Pro Max, mais est-ce qu'il y aura malgré tout quelques innovations d'intelligence artificielle compatible avec les précédents iPhone. C'est ça qui va être intéressant. Siri, par exemple, on sait que c'est pas en interne. Ça va être forcément de l'appel sur du réseau. Donc peut-être que ça arrivera sur tous les téléphones dont Siri est compatible.
Alors, justement, exactement. Ils n'ont pas aujourd'hui détaillé ça. Et par contre, ils ont dit plusieurs fois que ces fonctionnalités arriveraient progressivement tout au long des prochains mois. Ça veut dire que, en fait, on va probablement avoir des fonctions qui vont arriver entre maintenant, pour les bêtas évidemment, et l'année 2025. Et donc, c'est très dur aujourd'hui de dire quels vont être les devices compatibles. On peut imaginer évidemment que tout ce qui va dans le cloud ou ce qui utilise un modèle très standard en local comme le Siri actuel pourra tourner sur des versions antérieures. Ce qui est très très fort par contre, parce que ça vient de tomber également, c'est que ce qu'ils appellent le Apple Intelligence, donc l'IA d'Apple, sera gratuit dans iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia. Et c'est pas totalement neutre parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun modèle sur le marché totalement gratuit de copilote, si j'utilise un terme microsoftien, de copilote de ce type-là ou d'OpenAI qui soit offert aux utilisateurs. Ça, c'est quand même une vraie transformation parce que là, les fonctionnalités les plus poussées a priori devraient être fournies gracieusement.
Yves, première réaction.
Je mets un petit bémol à ce que tu viens de dire. Je suis d'accord à 99,9%. C'est quand tu parles d'Apple AI. Pour moi, ce que je comprends dans le positionnement d'Apple, il y a l'Apple AI et l'AI. L'Apple AI, c'est ce qui est à l'intérieur des applications qui fait que on est proche de l'utilisateur et ça se fait sur le terminal.
En interne.
En interne.
Et c'est les puces qui sont dans le téléphone.
C'est les puces. D'où le fait que Apple AI et pas ChatGPT, Apple AI ne peut marcher qu'à partir d'un certain taille d'intelligence, donc de chipset. L'iPhone 15 Pro, ok. Ça, c'est Apple Intelligence. Et Apple Intelligence, c'est le téléphone. C'est ton intelligence à toi et ça se fait, ça se travaille sur le téléphone. Ça sort pas de tout ça. Et puis à côté de ça, on intègre de l'AI gratuitement, ok. Mais c'est pas vraiment l'Apple Intelligence. C'est une autre couche. Et d'ailleurs, si j'ai bien compris, ils ont dit ou ils sous-entendent, d'après ce que je peux lire en direct, qu'il y a pas, il y aura pas que ChatGPT.
Non,
ils
sont ouverts à d'autres modèles.
Donc il fait bien la différence entre l'Apple AI qui est sur le device, ce qu'on appelle embedded, ok, et puis il y a l'intelligence artificielle qui sont des services. Il dit pas qu'il y en aura pas une d'Apple un jour. Et là, ils sont assez ouverts. Et la première, c'est ChatGPT 4o et qui est gratuite. Voilà.
Là-dessus, tu as tout à fait raison. Et ce qui corrobore tes propos, c'est qu'ils ont dit qu'en fait, la fonctionnalité AI, donc qui va interroger ChatGPT, est la même que celle qui aujourd'hui, quand Siri, on pose une question à Siri, il ne sait pas répondre. Et il dit, est-ce que vous voulez que j'aille chercher sur Internet pour vous? Et en gros, il affiche sur l'iPhone une liste de liens Internet. Ben, c'est ça que ça va remplacer, en fait. Qui n'a souvent rien à voir. Au lieu d'aller chercher sur Internet de l'info qu'il va afficher, il va aller, avec l'autorisation de l'utilisateur, interroger GPT 4o.
Et ça, c'est l'AI.
Et ça, c'est l'AI.
Alors que l'Apple AI, ça ne sort pas de son iPhone ou de son iPad ou de son Mac, ça ne sort pas de sa boîte. C'est ce que je comprends.
Ce qui est intéressant là, dans ce qu'on voit et toutes les fonctionnalités qui ont été présentées, c'est que vraiment, Apple est allé piocher à droite à gauche dans toutes les idées d'utilisation de l'IA aujourd'hui, ce qui en fait que c'est un produit sympa, agréable, pratique, etc. Donc on a de la génération de texte, de la génération d'images, de la création d'emojis, ça fait toujours rigoler les jeunes générations. On a donc le côté pratique avec le rangement ou la recherche d'informations, de photos sur l'iPhone. Et toutes ces choses-là, même si on comprend qu'effectivement il y a deux niveaux d'intelligence artificielle, Apple ne s'étend pas là-dessus, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est que l'utilisateur en tire le bénéfice directement et réussisse à créer une... Et là, il vient de faire la démo, un compte pour enfants avec l'IA générative et tu conclus en faisant l'illustration qui va bien. Et à côté de ça, tu vas avoir combien de temps vais-je mettre pour aller au spectacle de l'école de ma fille, sachant que j'ai un rendez-vous à tel endroit. Et l'IA va pouvoir, en regardant les agendas, calculer le temps de trafic, la circulation, etc., te dire tu vas être en retard ou tu vas être en avance. Donc il y a tous ces niveaux-là qui sont parfaitement intégrés sans que l'utilisateur ait besoin de se poser la question est-ce que ça reste à l'intérieur, est-ce que ça passe dehors, est-ce que c'est ChatGPT, est-ce que c'est Apple, etc., etc. Je trouve que c'est, si ça marche comme décrit, c'est quand même un tour de maître, parce que pour l'instant, on a tous testé Claude, Grog, machin,
Gemini.
Et on est perdu parce qu'on ne sait plus lequel on va utiliser pour faire telle fonction, etc. Là, Apple offre une solution intégrée à l'image de tous les produits qu'elle fait depuis des années. C'est une intégration façon Apple, et c'est pour ça que ça dépend de ces processeurs de la famille M1 qui ont tous une unité de calcul neuronale intégrée pour accélérer le traitement évidemment en local.
D'accord.
Surtout, voilà. ça leur permet d'offrir un niveau de service qui n'existe ailleurs, peut-être chez un copilot chez Microsoft en entreprise. C'est-à-dire, en gros, avec la maîtrise de toutes les données que tu as déjà. Là, en l'occurrence, sur ton smartphone, sur ton ordinateur, ton calendrier, tes messages, tes mails et toute la richesse documentaire qu'il y a derrière. Parce que nos mailbox, elles ont quand même une taille intéressante. Elles rapportent quand même pas mal de données. Elles donnent énormément de contexte. Et ça, il n'y a qu'un Apple. Enfin, il n'y a que le système qui est au cœur de l'appareil que tu utilises déjà qui peut le faire. Ça, OpenAI ne peut pas le faire juste avec une interface de ChatGPT.
Ouais. On va revenir justement à toutes ces innovations d'IA qui arrivent dans mail, dans les SMS, etc. dans un instant, pour vous dire que voilà, il est 20h45, la keynote WWDC vient de se terminer. Tim Cook a remercié tout le monde. Alors évidemment, cette WWDC, c'est le coup d'envoi, hein, cette keynote, elle dure 48 heures, je crois, voire plus.
Non, l'événement.
Ouais, l'événement.
Oui, il dure 48 heures.
Heures. C'est les développeurs qui sont conviés. Et là, en fait, les développeurs vont maintenant rentrer dans le dur, découvrir toutes ces innovations pour essayer de les intégrer dans leurs applicatifs. C'est ça qui est impressionnant. C'est que demain, toute cette intelligence artificielle pourra se connecter, s'interconnecter, par exemple avec Spotify, par exemple avec Waze, et en fait nous rendre la vie encore plus cool finalement, et ça c'est top. Ouais. Est-ce que on peut revenir sur quelques-unes des annonces d'IA qui vous a marqué, alors où Julien, Cédric, Didier, Yves, que Apple a présenté?
Peut-être en préambule, ça va être intéressant de voir, parce que Apple dit, bon, toutes les innovations qu'on vous montre aujourd'hui vont arriver graduellement dans les systèmes, etc. Mais ça, on va le voir très, très vite, dès demain. Toutes les versions bêta de iOS, iPadOS, macOS vont arriver dans les mains des développeurs,
oui,
et donc peu ou prou dans les mains de toute la presse Apple.
Et on va voir ce qui est déjà implémenté ou pas.
Lesquelles sont déjà vraiment implémentées en dur, quelles nouvelles apps, quelles nouvelles fonctions, et lesquelles on devra attendre probablement pour septembre et la prochaine keynote.
Apple est à la bourre quand même. C'est-à-dire que là, ça doit être un marathon de mise à jour.
Tu n'as pas le bon référentiel.
Moi, je pense qu'il est just in time. Non, honnêtement, je pense qu'il est just in time. C'est-à-dire qu'il arrive au moment où il peut proposer une expérience de qualité intégrée à une majorité de clients.
Je suis tout à fait d'accord.
Parce que les autres, il aurait pas réussi.
Je me suis mal exprimé. Je parlais de cette iOS 18. On a l'impression que, parce que j'ai cru lire des petites infos comme quoi iOS 18 va être disponible en bêta, mais énormément buggé.
Ah oui,
ce n'était
pas
le cas des précédentes années qui étaient. En fait, la première bêta d'iOS 18 était déjà totalement utilisable. Là, il paraît qu'il y a énormément de bugs. Ce que je voulais dire par rapport au retard, c'est que on voit que Apple la court après le temps pour essayer d'installer un maximum d'innovation dans cette iOS, parce que là, le compte à rebours a commencé. Il faut que le 15 septembre, quand l'iPhone 16 sortira, iOS 18 sort aussi.
Et l'effet de présentation d'ailleurs là-dessus est assez cruel et en même temps très intéressant. On s'est tous dit, donc pendant une heure, comme disait Cédric, bon, sympa, mais enfin c'est un peu boring tout ça, il y a un peu rien, je change la couleur de l'écran, etc. Et puis la deuxième partie, waouh, c'est extraordinaire. Oui. En fait, une année normale, c'est un peu quand même la première partie, il faut être honnête. Mm-hmm. Et donc là, ils ont plaqué un truc très très impressionnant sur le truc normal qu'ils font déjà tous les ans. Ce qui peut expliquer, faudra voir ce que disent les retours des premiers bêta-testeurs, mais que ce soit moins stable et moins performant que d'habitude.
D'ailleurs, Apple dit que certaines fonctionnalités arriveront plus tard dans l'année.
Oui.
Il ne se mouille même pas avec un calendrier, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir un iOS 18 qui pourrait arriver en septembre, avec peut-être 2-3 innovations, et que petit à petit, de manière incrémentale, et Apple le fait de temps en temps, il y avait des fonctions photo qui sont arrivées beaucoup plus tard.
Et les fonctions IA, a priori, si j'en crois le transcript que je viens de lire, uniquement en anglais dans un premier temps. Les autres langues arriveraient par la suite.
Alors, c'est bizarre.
C'est une vraie question, parce que si tu prends le marché japonais et le marché chinois, le marché japonais et le marché chinois sur lesquels OpenAI n'est pas dans leur langue, puisque c'est pas une langue, c'est des caractères, etc. C'est à peu près 25 à 27% de leurs revenus. Donc, est-ce que ça veut dire que les Chinois et les Japonais, Taïwanais, etc., enfin les Asiatiques, vont être exclus de ça? Pour les Indiens, j'en sais rien, je ne connais pas suffisamment. Mais en effet, pour le moment, c'est quand même limité aux pays anglo-saxons. Et moi, ça interpelle quand même.
Non, mais c'est clair.
Parce que normalement, jusqu'à présent, Apple et Steve Jobs disaient, moi, je veux la meilleure expérience pour tout le monde.
C'est compliqué.
Il y avait une unité de pensée, une unité d'expérience qui là, tout d'un coup, pour la première fois, alors, c'est pas bien, c'est pas mal, c'est juste un état de fait, ce que je suis en train de surligner.
Excuse-moi de te contredire, Yves, mais à l'époque de Steve Jobs, il y avait plein d'innovations qui sortaient d'abord aux États-Unis, qui arrivaient plus tard hein, dans le reste du monde.
Oui, enfin,
iTunes était sorti d'abord aux US, c'était arrivé en Europe plus tardivement.
Parce que c'était des innovations que Apple maîtrisait, et donc sur lesquelles il pouvait... de manière temporelle, les déployer. Quand c'est OpenAI qui... Siri powered by OpenAI, hein, je veux dire.
Ouais.
Bah, c'est OpenAI qui décide. Sur ChatGPT. Et tu sais quoi, OpenAI, avant qu'il rentre en Chine, on va en reparler.
Ouais, c'est clair. Donc, et puis ça peut même poser des problèmes de réglementation européenne, cette histoire-là.
Avec les opérateurs chinois, justement, sur la gestion de.
Ouais, alors. Ouais, il faudra pas poser n'importe. Enfin, il faudra faire attention aux questions qu'on pose. Mais en tout cas, on est sûr de la réponse.
Ouais, c'est ça.
Hein, je veux dire. Voilà, bon. Donc, bah, tu vois, quand même, quoi. Je veux dire, ça pose des questions, l'intelligence
artificielle. Moi, j'ai un petit doute sur cette info, quand même. Bon. Parce qu'effectivement, je suis d'accord, comme c'est OpenAI, a priori.
Non, il parle d'Apple Intelligence.
Hein, ouais, pas de la partie d'intégration. OpenAI.
L'intégration dans les téléphones. Ouais.
Apple Intelligence sera accessible uniquement sur les iPhone 15 Pro, les iPad et Mac M1. Donc avait équipé de puces M1 hein, donc là il faudrait regarder si vous avez un Mac qui a quoi, le M1 c'était quoi il y a 2-3 ans je crois
oui 3 ans.
Donc c'est quand même pas trop mal. Si on a un Mac relativement récent, ça marchera et il sera disponible en bêta à l'automne, d'abord en anglais, d'autres langues arriveront par la suite.
Ce qui est intéressant, c'est la capacité d'Apple, avec cette capacité d'intégration, à faire des choses que les autres ne peuvent pas faire. Je prends un exemple. Moi, ça fait quelques mois que j'ai une appli, je me souviens même plus comment elle s'appelle, Transcribe quelque chose, qui me permet d'enregistrer toutes mes réunions, et puis de les retrouver, de les transcrire, et de les summariser,
de les résumer.
Les résumer, merci beaucoup, j'étais trop dans l'anglais. Ils vont faire la même chose dans l'appli Note sur iOS. Sinon que dans l'appli Note, elle aura une fonction de plus, on pourra aussi enregistrer ses conversations téléphoniques et les résumer plus tard. Ça, aucune autre appli n'a accès à tes conversations téléphoniques sur un iPhone.
Apple c'est garde ça de manière très,
ah bah là,
très
c'est protégée. C'est les joues de la couronne. Donc, ce degré d'intégration va leur permettre de proposer des choses que personne d'autre ne peut.
Ouais, et c'est ce que je disais tout à l'heure, ça va tuer plein de startups qui ont surfé sur l'innovation de l'IA. Ah oui, c'est le batrap. Là, c'est clair.
Bah, surtout que toutes ces startups, aujourd'hui, elles ont pour clients les gens qui développent des apps, parce que pour intégrer l'IA, en gros, ils s'appuient sur les startups, ils le font pas eux-mêmes, la plupart du temps, et ça coûte très cher. Là, il va y avoir des API fournies par Apple, on peut imaginer à coût modique ou gratuit, puisqu'ils l'offrent gratuitement à l'utilisateur, et donc plein de développeurs d'app vont pouvoir intégrer des fonctions d'IA ou d'Apple Intelligence dans leurs applis, sans avoir à développer de modèles complexes, à payer des services, etc. Et ça, évidemment, les verrouille dans l'univers Apple. Donc tout ça est dans le modèle d'intégration classique de la pomme.
Moi, j'ai hâte de voir le nouveau Siri.
En fait, ils auraient peut-être dû changer de nom.
Moi, j'ai hâte de l'entendre, surtout.
Après, il y a des questions qui se posent, parce que Apple est toujours très, très pointilleux sur la qualité. Dans OpenAI, il y a des hallucinations. C'est peut-être pas 2 digits, c'est pas 10%, mais ça diminue, mais il y en a encore. Comment ça va être géré?
Et c'est pour ça qu'ils le traitent comme Internet, je pense. C'est-à-dire qu'ils disent, quand je vais sur OpenAI, c'est comme si vous allez sur l'Internet, c'est-à-dire vous aurez des choses fausses, des choses vraies, etc.
Et donc ça ne tourne pas sur les serveurs d'Apple.
Ouais, mais ils ont dit que Siri
sort du monde Apple.
Mais Siri était connecté à ChatGPT 4o. Oui.
Mais quand on pose une question à Siri et qu'il n'a pas la réponse, à ce moment-là, il demande l'autorisation d'aller la chercher sur ChatGPT. Donc ils affirment bien qu'on sort de l'univers Apple, qui lui est très qualitatif, et qu'on arrive dans le Far West d'OpenAI.
Et tu penses que le fait que Siri devienne plus intelligent, ce n'est pas que grâce à ChatGPT. C'est-à-dire qu'il y a Apple Intelligence qui le rend plus intelligent.
Sur le
c'est
device.
Une IA maison. Voilà. D'accord, ok. Mais dès que Siri ne connaît pas la réponse, il est connecté à ChatGPT 4o qui, lui, va prendre le relais en quelque sorte.
Exactement. Et le téléphone indique à l'utilisateur clairement, ça c'était les démos qu'il présentait, indique clairement. C'est une recherche qui se fait avec ChatGPT. Vous allez, et donc potentiellement avec Gemini ou un autre, demain.
Attention, vous sortez de chez vous, faites gaffe quand vous traversez, quoi. En gros, c'est ça.
Peut-être plus subtil que ça, mais ça ressemble à ça.
Ouais. Alors, ça va être intéressant de voir si on coche simplement une fois cette case, oui, des conditions d'utilisation pour avoir, ou est-ce qu'à chaque fois on aura droit à...
Le DMA va obliger à avoir plusieurs dans quelques mois, années. Le DMA va dire vous n'avez pas le droit d'avoir une exclusivité parce que etc, etc. Donc probablement qu'il va y avoir une régulation européenne. Mais je vais revenir quand même sur ce qu'on vient de dire. Parce que l'Apple Intelligence, c'est une innovation. Je veux dire, aujourd'hui, il y a l'intelligence générative, hein, OpenAI, Llama, etc. Il n'y a pas l'équivalent. Alors, il y a peut-être un peu copilote. Mais il n'y a pas l'équivalent de Apple Intelligence, qui tourne uniquement en edge sur le device et qui est pour soi-même. Et, alors, on ne va pas entrer dans les détails, mais qui est basé sur l'open source avec, avec des langages beaucoup plus légers que ChatGPT. Ça, c'est une innovation. Et la deuxième chose, moi, qui me. J'attendais de voir, c'est est-ce que Apple. Alors, je me doutais bien qu'il ne pouvait pas le faire. Aller tuer des apps pour dire. Les iPhones, c'est autre chose que des applications. Eh ben non. Lui, il dit les iPhones, c'est un smartphone intelligent. Et moi, je pense qu'il y a. Il ouvre. En ne présentant pas un iPhone, puisque ça reste basé sur des applications, hein, et Siri fait l'interconnexion entre ces applications, donc il va faire des layers qui vont avoir dans des développeurs cross-applicatifs que les développeurs vont pouvoir utiliser, leverager, etc., ou des API d'intelligence artificielle, ça c'est peut-être rentré dans la technique, mais il garde l'architecture des applications, il garde l'idée, le concept de l'application avec un application shop. Et Siri, il fait le lien entre tout ça. On n'aura plus besoin de le faire nous-mêmes, d'aller à la SNCF, son agenda, son Uber, etc. C'est Siri qui va le faire. C'est une manière de regarder les choses. Mais il y a une autre manière de regarder les choses qui dit qu'il n'y a plus du tout d'application. Et moi, je me fais un énorme data lake, ok ? Je décharge tout dans le data lake et je n'ai plus besoin de tout ça.
Non, mais tu n'auras pas de modèle économique pour ça. Le modèle économique, c'est les applis.
Attends, sauf que des gens comme OpenAI peuvent très bien se dire, en tant que tel, en tant qu'entreprise telle, qu'il y a un modèle économique, je vais faire ce que j'appelle un iPhone. Et qu'importe, je veux dire, bien sûr tu as raison, mais ce que je veux dire c'est que Apple a fait un choix. Et Apple a dit, la future génération de smartphones, ce sont des smartphones intelligents. Il n'est pas en train de casser le concept de smartphone. Et c'est une vraie interrogation, parce que quand Nokia a dit, moi je veux faire des feature phones avec des applications, il est mort. C'est le smartphone qui a gagné. C'est un vrai pari. De se dire que les iPhones ne vont pas exister et qu'il n'y arrivera pas et que c'est le smartphone intelligent qui va gagner. C'est un vrai pari. Je ne sais pas. Je relève juste ce pari. Je relève juste cette direction. Pareil qu'a pris Microsoft avec Copilot. Et je dis, ça, c'est la direction que prend la legacy, que prennent les gros actuels. Mais ça laisse la porte ouverte à d'autres plus créatifs qui vont prendre le contre-pied de ça, et à mon avis, il y en aura.
Passionnant tout ça. Mmh. Alors, vous savez quoi ? Le plaisir qu'on a, c'est qu'il nous reste encore une demi-heure pour évoquer tous ces sujets. Il est bientôt 21h. Ce qui va se passer, c'est que dans un instant, Léa Benahim va nous rejoindre pour faire un petit résumé des annonces de cette WWDC. Ensuite, Mélinda Davansoulas, qui est à Cupertino, à l'Apple Park, sera avec nous en visio pour nous donner son premier sentiment et ce qui l'a marqué, en fait, de cette keynote. Et après, on conclura ensemble cette WWDC Apple. Donc voilà, vous restez avec nous. On revient dans quelques petits instants. À tout de suite pour Tech & Co, la quotidienne.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Il est 21h02 en ce lundi soir. Merci d'être avec nous sur BFM Business. Radio, télé, les replays, les podcasts pour cette émission hors du commun, puisque nous commentons ensemble la WWDC édition 2024 d'Apple. Ce qu'il faut retenir de cette keynote, on fait ça tout de suite avec Léa Benahim qui nous fait le point. Bonsoir Léa.
Bonsoir François et bonsoir à tous. Et la keynote s'est ouverte avec le Vision Pro. Bonne nouvelle pour les Français, le casque arrive le 12 juillet, ainsi que dans 8 autres pays, dont la Chine, avec un prix 3 999 €. Côté mise à jour, le casque de réalité mixte va bénéficier de nouveautés. Apple a corrigé quelques problèmes qui étaient souvent signalés par les utilisateurs. Tout d'abord, plus besoin d'appuyer sur la petite couronne pour faire apparaître l'interface. Il suffira maintenant d'ouvrir la main. Et aussi les personas, ces avatars qui représentent les utilisateurs des casques, vont être améliorés pour les rendre plus naturels. Autour d'iOS 18, la dernière mise à jour d'Apple, plus de couleurs, plus de personnalisation de l'interface, le centre de contrôle va aussi profiter de fonctionnalités supplémentaires avec un système de widgets comme l'écran d'accueil, un peu à la façon Android. Un centre de contrôle devient lui aussi plus personnalisable. Vous pouvez maintenant choisir quel raccourci vous pouvez afficher sur l'écran pour accéder rapidement à une application ou à une fonction. Des nouveautés aussi du côté d'iMessage. L'appli va permettre d'envoyer des messages par satellite et ce, même sans urgence. Jusqu'à présent, on ne pouvait que contacter les secours de cette manière. Apple a également présenté des modifications apportées aux messages en eux-mêmes. On pourra jouer avec les typos, écrire des messages en italique ou en gras. Évidemment, cette fonctionnalité n'est disponible que entre possesseurs d'iPhone. Pour les Apple Watch, là aussi, quelques nouveautés. Focus évidemment sur la santé avec une nouvelle application nommée Signes vitaux qui sera disponible dans la mise à jour WatchOS. On pourra surveiller toutes les données récupérées dans une journée et avoir un historique complet. Et pour finir, François, on l'attendait tous, Apple a enfin enclenché la deuxième dans l'IA. Tim Cook a présenté Apple Intelligence avec l'aide de ChatGPT qui pourra communiquer avec Siri. Disponible sur iPhone, iPad et Mac, cette IA aura plusieurs fonctionnalités comme donner la priorité aux notifications les plus importantes, réécrire un texte ou obtenir le résumé d'un article en ligne. Elle aura accès à toutes les applications. On pourra par exemple lui demander de réserver un taxi sur Uber ou encore d'envoyer un message sur Instagram. Et détail intéressant, cette IA évolue en local sans passer par le cloud, ce qui nécessite une puissance importante. Résultat, seul l'iPhone 15 Pro pourra en bénéficier. La première sortie de cette IA se fera donc aux États-Unis durant l'été et en France quelques mois plus tard.
Merci beaucoup pour ce résumé bien sympathique de Léa Benaïm, journaliste à BFM Business et productrice de Tech & Co. Les amis, comme c'est le grand luxe ce soir, direction Cupertino, direction l'Apple Park avec Mélinda Davansoulas de la rédaction de Tech & Co qui est avec nous via FaceTime. Salut Mélinda.
Salut, salut Paris.
Alors, autour de cette table, tu as Didier Sens, Yves Maître, Julien Villeray, Cédric Ingrand. On frétille tous parce que ça y est, enfin, Apple a annoncé son intelligence artificielle.
Et voilà, une Apple Intelligence. Alors, le nom, c'est du Apple. Hein. Au moins, ça a le mérite d'aller directement à l'essentiel. On a vu, enfin, en fait, on a eu une feuille de route, plus exactement, avec plein de fonctions, plein d'utilisations à venir. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on connaît déjà chez la concurrence, en effet, mais on dirait que le talent d'Apple, la magie, c'est de rendre ça extrêmement facile et compréhensible par n'importe qui ne serait pas geek. On comprend tout de suite comment on va pouvoir l'utiliser dans nos iPhones, dans nos Macs, sur Safari, mais vraiment comme si c'était d'une évidence, d'une simplicité dingue. On a eu enfin la refonte de Siri depuis le temps qu'on l'attendait. Siri qui va être un véritable assistant vocal avec la capacité de nous comprendre. En fait, je dirais même, Siri, c'est le miroir de ce qu'a annoncé Tim Cook, c'est-à-dire une IA qui soit intégrée, intuitive, vraiment personnelle et qui nous comprenne, soit capable de comprendre nos contextes, nos routines. En gros, quelqu'un qui soit toujours avec nous et qui soit là pour faire ce dont on a besoin, limite avant même qu'on le pense et qu'on en ait besoin. Je trouve que c'est ça qui est fort.
Mélinda, on a pu apercevoir, je crois, Sam Altman qui était présent lors de cette keynote. Est-ce que tu l'as vu ?
Alors, moi, je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu une photo, donc je sais où il était. Il était dans une zone où nous journalistes, on n'a pas trop le droit d'aller. Donc, on le voyait derrière des vitres au loin. Donc, on savait très bien qu'il y aurait un petit coucou à OpenAI. C'est un partenariat qui n'est pas un mystère, hein. Enfin, ce n'était pas un secret. Il l'avait dit, on en sait un peu plus les contours, donc ce sera GPT-4o, la dernière version qui a été annoncée dedans, ChatGPT qui vient en soutien, mais je ne sais pas si vous notez, ce ne sera pas pour tout. ChatGPT, on a bien expliqué que ce serait pour certains types de requêtes des choses qui dépassent presque l'usage. C'est en complément, en bonus, vous avez besoin de trouver votre recette, des informations, en gros, ce qu'on reprochait à Siri de ne pas savoir faire. On disait toujours que Siri, pour les questions un peu nous aider à faire nos devoirs, en quelque sorte, c'était pas son fort. Ben, c'est comme si Apple en avait conscience et ne demandait pas ça à Siri. On demandera à ChatGPT. Alors, j'ai beaucoup aimé les garde-fous annoncés parce que ben, Apple Intelligence, ce sera majoritairement sur les appareils. Ce sera vraiment dans un cloud dédié, privé, sécurisé. Pour certaines données, si elles seront envoyées, ce ne seront pas toutes les données, elles ne seront pas gardées. Mais on a mis en garde aussi ChatGPT. On demandera à l'utilisateur s'il veut utiliser ChatGPT, s'il est OK pour lui envoyer ses données. Parce que ChatGPT, on sait que la sécurité, bah, c'est pas la même chose, c'est pas la même limonade que chez Apple. Donc, bah, on met en garde et l'utilisateur et OpenAI. Si les données, elles sortent de l'environnement Apple, attention, il faut que ce soit extrêmement sécurisé.
Et puis ChatGPT aussi se sert de toutes ces requêtes pour nourrir en fait son modèle. C'est ça la grosse différence. Alors, c'est vrai, il y a l'aspect sécurité, tu as raison, Melinda, mais en fait, ChatGPT se nourrit de toutes les requêtes qu'on lui fait pour devenir meilleur. Et ça, je pense que ce sera toujours le cas.
Mais on ne connaît pas le contrat qui a été passé entre Apple et OpenAI.
On ne connaît pas le contrat qui a été passé. Ce qui est intéressant aussi, Melinda, c'est ce que nous, on a compris ici sur le plateau, c'est que finalement, Siri va devenir un carrefour d'intelligence artificielle générative parce que aujourd'hui, il y a ChatGPT. Mais demain, on pourrait peut-être en avoir un autre qui pourrait se connecter.
Oui, en fait, c'est ça. Siri, ça va être la maîtresse de maison, j'ai envie de dire. Elle va centraliser les infos. Elle va être capable. C'est la seule qui est quelque part autorisée à aller fouiller dans nos informations, dans nos données, parce que c'est notre assistant personnel. Les autres sont des assistants externes qui viennent en soutien. Donc, c'est intéressant ce rôle. Et puis, vous avez vu, il y a plein de fonctions où on préviendra. On peut enregistrer les appels maintenant pour faire de la retranscription. On prévient l'interlocuteur. Donc, il y a vraiment ce côté... On centralise plein de fonctions. Ça va être disponible dans plein d'applications, notamment tout ce qui est l'aide à l'écriture. Mais, voilà, comme je disais, avec des garde-fous pour tout le monde, pour que ce soit vraiment sécurisé. On sait que la sécurité des données, la confidentialité, c'est un argument très, très fort chez Apple. C'est extrêmement important. C'est aussi pour ça que l'IA d'Apple, quand elle arriverait, on savait... qu'il y aurait des garanties, ça partirait pas dans tous les sens et ça ne partirait pas surtout n'importe où.
C'est intéressant ce que tu as dit sur l'enregistrement des conversations téléphoniques. Bon, déjà, c'est une grosse innovation, ça. C'est tout nouveau chez Apple. Le fait qu'on puisse enregistrer une conversation téléphonique, il y a des applications qui essayent de faire ça, mais bon, c'était plus ou moins l'arnaque. Là, ça va arriver donc en interne dans le téléphone. Mais ce que tu disais très intéressant, c'est que le correspondant sera au courant que la conversation est enregistrée. Un peu comme quand on appelle un SAV, finalement, où on vous dit, attention, cet appel peut être enregistré. C'est ça, en fait.
Voilà. Mais vous savez, c'est aussi dans les visios, quand vous faites des visioconférences sur certains outils, dès que quelqu'un enregistre, on a tous le message. Et bien c'est ça en fait, c'est juste, on le sait, attention, cet appel est enregistré. Je trouve que c'est la moindre des choses, bien au moins, de prévenir. En plus, là, il y a carrément la retranscription, donc il vaut mieux que la personne elle soit au courant que tout ce qu'elle va raconter, ça va rester en trace. Quoi.
Voilà, ça peut être retranscrit, résumé, etc. Enfin bon, traduit peut-être. Est-ce qu'on a parlé de traduction aussi, l'une des fonctionnalités du Galaxy S24, justement?
Alors, justement, parce que ça, c'est des... En fait, ce qu'on a vu sur cette Apple Intelligence, c'est qu'il y a plein de choses qu'on a déjà vues chez Google, qu'on a déjà vues voilà, sur d'autres utilisateurs d'IA. Mais... tout est centralisé et facilité. Il y a la retouche photo aussi. Alors, ça a été vite abordé, mais il y a la retouche photo, il y a la traduction. Il y a plein de choses qui arrivent, sauf le multilingue. En fait, ce ne sera disponible qu'en anglais pour le moment. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on ne sait pas grand-chose encore sur le côté traduction.
Étonnant ça, hein. Pourquoi c'est disponible qu'en anglais, alors que c'est vrai que... On voit que ChatGPT a été ouvert tout de suite dans des dizaines et des dizaines de langues. Là, oui, oui, c'est vraiment l'anglais qui est privilégié.
Oui, mais ça demande de la puissance de calcul. Et si tu veux le faire en Edge, sur ton téléphone,
ouais, ça nécessite
beaucoup trop de puissance de calcul, je pense, pour le moment. Exactement. Alors, ça viendra avec les processeurs. Ou alors, il faut passer sur le cloud. Et ça, c'est une autre paire de manches.
Ils ont besoin d'entraîner des modèles, en fait, par langue. Contrairement à OpenAI, qui a tout de suite entraîné un modèle multilingue. Pour, effectivement, des raisons de stockage local, pardon. Et donc il va falloir un peu de temps pour mais ça viendra forcément vu le spectre mondial d'Apple, c'est évident.
Petite question pour Melinda, les amis.
Toujours un plaisir, Melinda, c'est Cédric. qu'est-ce qu'ils vont te montrer maintenant?
Alors attends, je t'entends pas bien parce qu'il y a une musique à fond ici. Vas-y, redis-moi Cédric.
Je disais, qu'est-ce qu'ils vont te montrer maintenant que la keynote est terminée?
J'espère qu'on va avoir un peu... J'ai beaucoup de rendez-vous, je ne vous cache pas, là. Donc j'espère quand même qu'on va avoir un très très gros avant-goût de tout ce qui va être possible à l'IA. De toute façon, il y en a tellement dans tous les OS que même si on présente iOS, macOS, on va me parler de l'IA. Toutes les fonctions principales arrivent, on comprend qu'il y a de l'IA derrière. On comprend que c'est l'IA maison, on comprend que tout est fait pour faciliter l'usage. Parce que aussi, faciliter l'usage de l'IA, le rendre compréhensible par n'importe qui... On a vu ici, tout bêtement, vous savez quoi? L'annonce de la calculatrice sur iPad. Enfin, c'est quand même une annonce... Alors, on l'attendait, mais c'est pas non plus une révolution.
Ah non, ça c'est moi qui peux dire.
Mais tous les usages de MathsNotes à côté, Eh ben ça, c'est pareil, c'est fait à l'IA, tout ça, mais ça va être hyper facile. Bon, on n'aura plus de mathématiciens dans 10 ans, visiblement, parce que plus personne ne va avoir besoin d'apprendre les formules, mais on montre aux gens que c'est facile d'utilisation. Et je pense que ça, c'est la principale leçon de cette Apple Intelligence, c'est comment ils vont pouvoir driver beaucoup plus de gens qui ne vont pas être effrayés par l'utilisation de l'IA. Parce qu'il y a eu quelque chose d'extrêmement naturel et personnel qui a été montré. C'est pour ça que je pense qu'Apple n'avait aucun intérêt à faire une démonstration un peu waouh de choses utilisées par 3% des utilisateurs. Là, on a expliqué ce que 98% des gens vont utiliser.
Julien Villeray, une question pour toi, Mélinda.
Oui, Mélinda, c'est une conférence développeur et l'avantage d'être sur place, la beauté d'être sur place dans ce genre de keynote, c'est que on ressent un peu, on entend les waouh, les applaudissements au moment où certaines fonctionnalités ont émergé. C'était quoi les 2-3 moments où les développeurs ont vraiment été heureux de ce qui a été présenté?
Donc, hormis la calculatrice, hein, parce que
bien sûr, la calculatrice, évidemment.
Un vrai moura improbable. Non, on a trouvé vraiment sur les annonces. Les annonces. Alors, il y a une partie sur l'IA, vous savez, l'utilisation en photo, la création des mémojis, de la création de photos un peu à la mi-journée. Ça, il y a eu une bonne réception.
Alors, explique-nous ce que c'est, parce que d'après ce que j'ai compris, on va pouvoir, je sais pas moi, Julien m'envoie un petit message, j'ai envie de créer un emoji rien que pour lui, simplement. En fait, je vais pouvoir dicter l'emoji et l'emoji va se créer, c'est ça?
Ouais, exactement. En fait, tu vas pouvoir créer un emoji qui sera en rapport avec ce que tu lui dis, avec aussi possiblement ce que j'ai compris, ce que l'IA va comprendre de vos échanges. Je sais pas, si vous parlez tout le temps de foot ou je ne sais quoi, eh ben elle va avoir tendance à orienter la création vers des éléments de discussion que vous avez fréquemment. L'idée, c'est vraiment d'aller dans la personnalisation de l'utilisateur et de celui derrière. Ça, c'est quelque chose qui a été bien reçu aussi ici, le côté personnalisation faisable à l'IA. Ça parle beaucoup un peu partout. Et donc là, on va voir vraiment ce qu'il en ressort. Mais on sent que ça discute déjà beaucoup de tous les usages possibles autour de l'IA. Mais ce qui est bien, c'est que pour des développeurs, ça donne, ça va apporter une couche à ce qu'ils créent déjà. Je pense qu'il y a des gens qui vont créer avec l'IA en plus. Mais là, ils ont tous compris ce qui allait être facile à utiliser pour enrichir leur propre création d'application.
Mélinda, est-ce que tu penses, tu le disais tout à l'heure un peu en filigrane, mais est-ce que tu vas pouvoir, à ton avis, tester ces premiers éléments d'intelligence artificielle? Comment ça se passe en général? Parce que des WWDC, t'en as fait quand même quelques-unes déjà. Ouais. Est-ce qu'on te montre déjà en bêta-test des choses de d'iOS?
Ouais, tout à fait. Tout à fait. En général, on nous montre, vu que la bêta développeur va être disponible, on a entendu dès aujourd'hui pour certains, pour certaines, eh ben oui, on va montrer en gros à quoi ça va ressembler. Alors, pour les gens qui attendront la version définitive, par exemple à la sortie des iPhones au mois de septembre ou des Mac, et puis pour ceux qui voudront tester la version publique de la bêta au mois de juillet, nous on va voir un avant-goût en fait des usages, et notamment évidemment autour de tous les nouveaux usages de l'IA. Je pense notamment du tri des photos. On a vu une grosse refonte de l'application photo, le tri dans les mails qui va servir à beaucoup d'entre nous, on le sait, ne mentez pas, pour mieux lire les mails. Tout ça, oui, on va le voir. Ça, je pourrais tout vous raconter. Parce que ça, je vais le voir.
Didier Sens veut te parler.
Salut Mélinda. Deux petites questions. D'abord, on a vu que effectivement l'accent était porté sur iOS, hein, pour les fonctions d'intelligence artificielle. On a vu quelques captures d'écran où il était question de l'iPad. Est-ce que les intervenants parlent aussi du Mac comme un support possible de toutes ces nouvelles fonctions d'intelligence artificielle? Et deuxième question, est-ce que parmi les fonctions d'IA appliquées à mail, il a été question à un moment du, parce qu'on a parlé du tri des messages, de fonctions anti-spam?
Qu'est-ce que tu entends par les dernières fonctions anticipables?
Anti-spam,
pardon. Non, ça c'est une bonne question à leur poser. Je pense que ça viendra, peut-être dans un second temps, mais il n'y a pas de raison que ça ne vienne pas. En plus, comme on l'a dit, c'est des choses qui existent déjà sur Gmail, par exemple, beaucoup. Oui, en gros, toutes les fonctions, on sent qu'Apple Intelligence, c'est sur iPhone, sur iPad, sur Mac, certaines sur Safari, mais on sent que tout fonctionne de pair, tout va ensemble. Il y a une vraie, comme ils l'ont annoncé avec macOS, il y a une continuité. Dans l'usage général, il y aura une continuité dans les usages d'intelligence artificielle, notamment quand il a été question du cloud, vous savez, ce private cloud, ce sera pour tous les appareils quand vous utilisez l'IA. Ça, c'est sûr.
Ok. Très bien. Yves, une petite question pour Melinda, ou on peut la libérer aussi?
Non, je pense que c'est extrêmement clair ce qu'elle a dit. Bravo, parce que c'est un très très bon résumé. Peut-être une dernière question. On parle de la succession de Tim Cook sur scène, comme ça, regardant. T'en as vu un, là, qui pourrait succéder à Tim?
Ça, c'est vrai que c'est le gros sujet.
Normalement, il est là. Il est forcément là. Je veux dire, il est forcément, parce qu'on le prépare. Donc, toi qui étais sur scène, là, il y en a un où tu t'es dit, tiens, lui, il y a un petit quelque chose.
Non, quand même pas. Non.
Alors, c'est la question de la succession, je pense qu'on va lui poser la question à Tim jusqu'à ce qu'il parte vraiment. Oui, elle se prépare, c'est sûr. De toute façon, lui, quand il est arrivé en 2011, en 2021, ça faisait 10 ans. Pour ces 10 ans, il a dit je ne serai plus là dans 10 ans. Bon, alors, ok, ça reste encore quelques années, mais on sent ici qu'en effet, il prépare des gens qu'on met un peu plus en avant. Est-ce que ce sera Craig Federighi? Je ne suis pas certaine. Je pense qu'il est très bon en plus pour ça. Est-ce qu'il sera très bon en patron global? Je suis pas certaine. Je pense que le patron ou la patronne, parce que je pense que ce sera plutôt une femme. Ce sera quelqu'un qui est bien plus dans l'ombre, comme en fait Tim Cook l'était au moment où il a pris les rênes. On a parlé beaucoup de John Ternus, vous savez, au moment de la présentation des iPads. Alors il est presque un peu jeune, on a envie de dire pour le moment, et puis il vient d'être récemment mis en avant. Je pense notamment, alors je vais retrouver son nom, enfin l'écorcher. Deirdre, je ne sais plus, qui est responsable de tout ce qui est Apple Store logistique, qui pour moi est quelqu'un qui est de fait à la croisée des chemins de la logistique, de la production, de savoir quand tout est produit et tout se fait. Je pense plus à un profil comme ça, en fait.
Ça va être un sacré casse-tête, ça aussi, hein. Quand on s'appelle Tim Cook, trouver son successeur qui va reprendre les rênes d'une boîte qui est la boîte la plus puissante au monde, ça doit être un truc.
C'est le conseil d'organisation, pas le conseil d'administration.
Ouais, c'est clair. Mais bon, j'imagine qu'il a son mot à dire. Enfin,
se proposer des noms, en tout cas.
Il doit insuffler ça aussi, je pense, à son conseil d'administration. Merci beaucoup, Melinda. Ben voilà, il nous tarde d'avoir tes retours sur ces premiers tests en bêta que tu vas aller faire maintenant. Ta journée, c'est quoi, là? Allez, fais-nous rêver. Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que rappelons-nous, c'est 9h de moins. Il est quelle heure, là, chez toi?
Il est midi 20. Vous avez terminé votre soirée. Moi, je vais attaquer ma journée quelque part. Là, je vais faire une petite pause bien méritée. Et après, ce sera le moment d'aller découvrir toutes les innovations sur les OS, parler Apple Intelligence, parler avec les gens d'Apple, justement, pour comprendre vers quoi ils vont. Et ça, ce sera tout ça sur le site Tech & Co très vite.
Merci beaucoup, Melinda Davansoulas, donc merci, journaliste Melinda, pour la rédaction de Tech &
Co. Ciao.
Bonne fin de journée. Business. Merci, c'était top. On arrive presque à la fin de ce rendez-vous. Il nous reste 5 minutes, les amis. J'aimerais avoir votre sentiment.
Ça est très prometteur. On a hâte d'y mettre les mains, mais j'ai l'impression que ça, effectivement, n'arrivera pas avant quelques temps. Et puis, le revers de la médaille, c'est quand même qu'il va falloir investir dans des iPhones modernes. Sachant que le ticket d'entrée, c'est autour de 1000 euros. Bon.
Oui, mais ça, comme le disait tout à l'heure justement Julien, hein, Apple est là pour vendre des appareils.
Son
modèle. C'est son modèle. Qu'est-ce qui t'a marqué là? Quelle est la fonction que t'as envie de tester là, le plus rapidement possible?
Alors, toutes celles que je connaissais moins, notamment la génération de texte avec OpenAI, le résumé, toutes ces choses-là, même la retouche d'image, tout ça, on les a déjà vues ailleurs. Mais
oui, parce qu'il y a on n'a pas parlé de retouche d'image, mais il y a plein de systèmes de gomme magique, des choses qui sont pas nouvelles, qui existent depuis des années chez Google. Google, hein, et qui arrive enfin chez Apple. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes trois sur la plage, je suis avec Yves, j'ai pas envie que Didier soit sur la photo.
Je t'efface.
Ou l'inverse, tout dépend des jours, en fait, de mes humeurs. Et en fait, on va retrouver une plage parfaite et Didier aura complètement disparu.
Alors, donc, tout ça, encore une fois, ça va être très sympathique, ça va être très intéressant, mais c'est déjà du connu. Moi, je veux mettre Siri à l'épreuve parce que j'ai tellement écrit sur Siri à ses débuts, j'ai tellement fait de tests, de conseils pratiques, de machins, de trucs en disant c'est l'avenir, ça va évoluer, etc. Et quand on s'aperçoit qu'il s'est rien passé en 10 ans, même en 15 ans, donc on a vraiment envie maintenant de passer à l'étape supérieure et je pense que l'IA va lui permettre enfin d'avoir un vrai assistant personnel.
Cédric,
il faut reconnaître à Apple qu'ils y sont pas allés avec le dos
de voile.
Ils auraient juste pu dire regardez, on a refait Siri, Siri a enfin un QI à deux chiffres. Vous visez les trois pour la
mais
prochaine
version. Mais on n'y est pas encore.
Mais ils auraient pu s'arrêter à ça, on aurait dit « Ok, c'est bien, puis ça interagit un peu avec les apps, oui, de fait, on peut commander son Uber, etc. » Non, là, ils y sont allés. En fait, ils ont joué sur leurs propres forces, qui sont à la fois l'intégration, la puissance des processeurs, l'accès, encore une fois, à nos données, parce que c'est ça qui donne de l'intelligence au truc, c'est toutes ces informations qui donnent du contexte à une requête, et ils le font vraiment, donc ça, on peut le reconnaître. Évidemment, le but, c'était quand même d'y arriver sur des machines maison sans faire que du cloud, parce que ce sera là pour le coup peut-être un petit bump dans les ventes d'iPhone de prochaine génération. Donc non, c'est ok. Ils ont pas fait semblant. Et ça, je vous dis très honnêtement, après la première heure qu'on a passée à regarder les mises à jour d'iOS en se grattant la tête en disant non mais sérieusement, cette fonction-là, elle n'existait pas déjà.
Ouais, donc
ah bon, non, après voilà.
Julien.
Dans la continuité de Cédric, je pense qu'ils ont repris la main en fait. C'est vachement intéressant parce que c'est pas toujours le cas d'Apple, honnêtement. Ils ont tendance parfois à être un peu après les autres, mais en peaufinant, etc. Là, très clairement, pour moi, ils ont repris la main. Ils ont repris la main pourquoi ? Parce que le nouvel Android qui a été annoncé en bêta il y a quelques semaines à la Google I/O n'a pas du tout cette profondeur de fonctionnalité IA. Absolument pas. Microsoft avec Copilot, certes, a annoncé ses Copilot PC+, enfin, ou je sais plus comment ils les appellent, AI PC+, quelque chose comme ça, dans lesquels il y a des fonctions Copilot. Mais une partie de Copilot est payant, hein, s'il faut un Office 365 qui coûte $30 par mois de mémoire en plus, bref. Donc, sur tous ces points-là, ils sont assez bons. Privacy, très bonne qualité, beaucoup de fonctionnalités offertes gracieusement aux clients et de façon simple, a priori.
Et intégrées.
Ils ont repris la main.
Yves.
D'abord, la semaine dernière, on avait fait des prédictions, elles se sont réalisées, donc je pense que c'est déjà une bonne chose.
C'est bien, on va pouvoir créer un business
pour moi. Pour la première fois depuis un certain nombre d'années, ils se recentrent sur l'iPhone et ils redonnent une direction très claire sur ce qu'ils veulent, sur où veut aller l'iPhone. C'est le premier point. Deuxième point, il y a une réflexion éthique autour de l'intelligence artificielle. C'est pas le cas des concurrents. Je trouve que les concurrents parlent vraiment dans tous les sens et c'est une course contre la montre. Là, il y a une réflexion sociétale, éthique, d'utilisateur qui est vraiment la plus poussée et de loin, avec une direction très claire. Et puis troisièmement, ben, comme tu le disais, comment va réagir Android ? Parce que là, tout d'un coup, Apple dessine vraiment bien où il veut aller. Android est beaucoup plus flou, c'est beaucoup plus pâteux ou marécageux, j'allais dire. Et là, tout d'un coup, on va voir Apple de nouveau se démarquer d'Android. Et Android va devoir, quelque part, rattraper la tendance qui a été édictée aujourd'hui.
Merci beaucoup à tous les quatre. Merci Cédric. Un vrai plaisir que de vous avoir sur le plateau. Cédric, un grand Julien Villeray, Yves Maître et Didier Sens. Voilà, je pense que vraiment c'était de haute volée ce débat d'une heure et demie sur les annonces WWDC. Je vous donne rendez-vous demain, non pas pour Tech&Co la quotidienne, mais pour une émission spéciale qui s'appelle La Nuit de l'IA de 20h à 22h que j'aurai le plaisir de présenter. Et on va essayer de scanner les usages de l'intelligence artificielle et les secteurs qu'elle est en train de bouleverser, que ce soit la santé, la robotique, mais aussi le divertissement et l'IA qui arrive aussi au bureau avec des invités prestigieux. Il y aura un robot sur la scène du plateau de Tech & Co et en plus, je co-animerai cette émission grâce à une intelligence artificielle. Voilà, je vous en dis pas plus. Rendez-vous dès demain, dès 20h, pour la Nuit de l'IA sur BFM Business. D'ici là, portez-vous bien et belle soirée.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.